Alors, on va enchaîner avec deux communications. La première, donnée par Eric Wittersheim, qui est directeur de l'IRIS Labo de l'EHESS, pour une communication qui s'intitule « Entre Paris et la banlieue, éléments pour une socio-histoire punk des années 80 », donc plongée dans les années 80.
Alors l'introduction de Luc a complètement plombé mon intervention, parce que je voulais parler de ma jeunesse adolescente punk, entre ici les Moulineaux, le 15e arrondissement, et la banlieue donc. Et donc je vais essayer de rattraper un peu le coup, parce que là, tu me fais passer pour un notable. Mais ça traite un peu de ça, cette communication, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu long. Enfin, je vous avoue que c'est un texte sur lequel je rame pas mal, parce qu'il s'agit beaucoup de moi, et puis en même temps d'essayer quand même de faire de la sociologie ou de l'anthropologie, parce que c'est pour ça que je suis dans le projet PIND, en tant qu'anthropologue, pas en tant qu'expert du punk. Et j'espère que c'est pas trop long non plus. Enfin, quand vous vous ennuyez, vous me le direz. Bon. Et je vais lire en plus, parce que sinon ça va partir en live, mais ça va pas être... chiant, j'espère. Alors, cette présentation part du constat que l'étude du mouvement punk, en plus d'apporter une connaissance sur le mouvement lui-même, peut également nous permettre de mieux connaître la société dans laquelle et contre laquelle il s'est développé, et en ce qui me concerne, donc la France des années 80. C'est pour ça que le sous-titre de la communication, c'est « Entre Paris et banlieue, une socio-histoire punk des années 80 ». Alors, la socio-histoire, pourquoi ? Parce que c'est une sorte de boîte à outils que propose un historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est un historien engagé, qui a un petit peu révolutionné l'histoire de France avec des livres comme Le Creuset français sur l'histoire de l'immigration et un livre qui s'appelle aussi Les ouvriers dans la société française. Et en fait, il écrit une histoire qui est à la fois la grande histoire, mais qui est toujours à la hauteur des gens, hein, toujours plus proche de ce qu'ont vécu les individus et qui ne renonce jamais finalement à décrire des expériences singulières. Donc c'est un peu cet exercice que j'essaie de faire et je vous avoue que finalement, ce n'est pas si facile que ça. Je trouve. Et en plus, il s'agit de rajouter à cette méthode de socio-histoire, que je ne prends pas comme une méthode absolument efficace, et voilà, je peux m'en distancier aussi, mais d'y ajouter une bonne dose de punk, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est le punk, mais en tout cas, c'est montrer que le punk, dans la manière dont il peut nous aider à lire cette histoire des années 80, finalement renverse ou bouscule les regards qui sont habituellement portés sur cette belle période sur le plan politique et social des années 80, pour ceux qui l'ont bien connu. Qui a du mal à nous éveiller de la nostalgie, à part peut-être pour quelques concerts mythiques en banlieue. Alors, rester proche des individus, d'expériences singulières, et en l'occurrence aujourd'hui, selon la commande qui m'a été faite par Luc et Solveig, finalement, de parler de cette période adolescente où je me suis inscrit, autodéclaré, comme la plupart des punks, hein, parce qu'on n'est jamais désigné punk, mais plutôt on se proclame. Et donc l'idée aussi derrière ça, c'est d'apporter des éléments pour comprendre comment le punk tel qu'il est vécu par des individus lambda comme je l'étais, comment il imprègne le punk musical. Hein, on a tendance à peut-être se focaliser beaucoup aujourd'hui sur le punk musical et c'est ce qui reste, c'est ce qu'on voit sur les YouTube et autres, dans les archives, dans la musique. Et finalement tout ça a été porté par une réalité sociale qui est beaucoup plus difficile à faire émerger, hein, parce que justement on manque de témoignages et de travaux aussi, universitaires ou non, là-dessus. Et du coup, cette lecture du punk, elle réintroduit, j'espère de manière fine, pas trop brutale, des notions comme les différences de classe sociale ou d'origine sociale et des différences de territoire. Hein, et du coup, c'est ça qui va guider un peu cette présentation sur le punk entre Paris et la banlieue. L'expérience propre à la banlieue, hein, et les expériences, on pourrait dire, tant elles sont différentes et diverses, et les propres différences, les profondes différences qu'elle porte déjà en elle par rapport à Paris, peut permettre, je pense, de comprendre la diversité même de la musique punk et des engagements, des styles, des collaborations et aussi des rivalités entre les groupes qui ne sont pas toujours du passé d'ailleurs. Je ne nommerai personne, bien sûr. Punk ou pas, la frontière marquée par... Pourquoi il y en a qui rigolent ? Punk ou pas, la frontière marquée par le périphérique continue de jouer son rôle. C'est comme une ligne de démarcation à la fois physique et symbolique, une séparation Paris-banlieue, et c'est cette séparation qui constitue un peu le fil rouge de cette présentation. Alors tout d'abord, trois idées reçues, j'irai vite sur les deux premières parce que pour vous elles paraîtront sans doute vraiment inutiles d'être citées, mais elles méritent de l'être pour un public plus large. La première, c'est que le punk n'est pas mort et qu'on sait, en dehors des initiés, du cercle des initiés, que l'histoire du punk, en France comme ailleurs, ne s'arrête pas au tournant des années 80. Hein ? Et l'expression « punk is not dead » aujourd'hui nous paraît bien ironique dans sa lucidité prémonitoire, quand on voit la ferveur de la mise en patrimoine du punk aujourd'hui, à laquelle le projet PIN participe à sa manière, en l'étudiant, de manière décalée. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que le punk, avec la présence d'André Santini, que j'ai raté malheureusement ce matin, a d'une certaine manière conquis largement au-delà de son public initial. Deuxième idée reçue, celle qui veut que la scène française soit un simple prolongement de la scène anglaise. Hein. C'est encore une idée reçue très profondément, en dehors des gens qui connaissent de l'intérieur ce mouvement. Et c'est une vision que les sociologues qualifient de diffusionniste. Hein. C'est-à-dire qu'un truc naît à un endroit, puis se diffuse après, un peu comme la pizza, c'est diffusé à travers le monde, par exemple. Et, ou alors de vision top-down, hein, que ça viendrait toujours d'en haut, d'une source. Hein. Donc il y a eu une invention quelque part, et puis ensuite elle irrigue. Et nous, pauvres punk français, on n'aurait fait que répliquer de manière assez pâle, finalement, ce qui s'est joué, notamment, principalement en Angleterre. Mais cette vision ignore complètement les spécificités, l'originalité des groupes français, de leur style, de leurs textes, mais aussi de l'organisation économique qui s'est développée, des réseaux qui sont bien souvent propres à la France. Il existe une scène française bien particulière, fortement inspirée par la scène punk anglaise, mais pratiquement sans lien avec celle-ci, autre que la circulation de la musique et des vêtements, et il faut bien le dire souvent, à sens unique, de l'Angleterre vers la France. Mais cette scène, elle est aussi très française, hein, non pas parce qu'elle revendiquerait d'être française comme un étendard nationaliste, ou sauf pour une minorité, mais parce qu'elle a été en grande partie façonnée par sa marginalité et son caractère alternatif par des spécificités bien françaises, comme l'opposition entre Paris et province, le centralisme, l'importance du soutien à l'État, de l'État à la culture dans les années 80, même si les punks n'en ont pas beaucoup profité directement, mais d'une certaine manière ont su peut-être se greffer dessus. Hein, je pense au réseau des MJC comme Fahrenheit ici même, parce que je pensais qu'on était là-bas avant de venir. Et voilà aussi cette notion de, enfin cette forte séparation entre Paris et la banlieue, qui est un truc typiquement français. Et donc cette histoire du punk bien français, qui est la base de cette communication, mais qui est aussi toute la base du projet PIND, c'est d'une certaine manière aussi pour moi, une manière peut-être d'essayer de relire ou réécrire cette histoire de la France des années 80 autrement. Et donc enfin, la troisième idée reçue, c'est l'idée que le punk s'arrêterait aux frontières du périphérique et n'aurait pas franchi la banlieue. Évidemment, ça fait sourire plein de gens ici, mais je pense que c'est là-dessus que si on écrit en tant que chercheur, par exemple, on peut dire des choses justement pour faire émerger, au-delà des groupes connus qui sont restés, etc., toute une réalité qui non seulement était très très active, mais surtout a nourri le punk tel qu'il s'est ensuite inscrit dans l'histoire de la musique et des phénomènes populaires, on va dire, des contemporains. Donc au-delà de ces lieux habituellement associés à l'explosion du punk, hein, comme les Halles ou le Palace dans les années 70-80, d'autres lieux moins connus, hein, bien sûr en province, à Rouen, Toulouse, Montpellier, mais pas seulement, et je vais parler là de la banlieue, et de villes aussi glamour que Maurepas, Pontoise, Montreuil, Juvisy, Ris-Orangis, Issy-les-Moulineaux, Chevilly-Larue, Épinay, Épinay-sur-Seine. Hein, ces noms qui fleurent bon la banlieue parisienne et ses paysages de béton grisâtre, qui sont bien connus pourtant des acteurs de la scène punk dans les années 80. Et quand je parle des acteurs, je parle de tout le monde, pas seulement des groupes évidemment, mais de tous ceux qui allaient les écouter. Ces villes de banlieue qui représentent des lieux de concert, des fiefs de groupe, des squats accueillants ou au contraire des endroits à éviter coûte que coûte. L'évocation de ces acteurs, hein, qui sont pour certains des fanzines, des labels, des radios libres, etc., qui est basée sur un peu l'archéologie d'une expérience personnelle qui a quand même 30 ans, permet aussi donc d'aborder cette histoire, l'histoire de cette époque, hein, l'histoire entre... Hein, c'était l'époque où on parlait beaucoup d'action directe, de l'émergence du FN, de l'apparition des emplois aidés aussi, du RMI, et tensions entre les jeunes et la police, et du développement des drogues, en particulier de l'héroïne, hein, la drogue reine des années 80, qui va profondément marquer aussi, je pense, le punk, et profondément le diviser aussi, à la fois dans les prises de position, mais aussi dans l'évolution, y compris physique, des gens qui sont passés par là. Et voilà, évoquer le punk en banlieue, c'est aussi une manière d'aborder cette scène punk française autrement que comme un mouvement strictement musical, hein, et artistique et parisien. Loin d'une image un peu branchée et parfois un peu élitiste aussi des groupes de la fin des années 70, l'éclosion du punk en banlieue révèle au contraire des racines profondes, hein, d'un mouvement dans un, on pourrait dire, un prolétariat pour aller très vite, et une toute petite bourgeoisie blanche et banlieusarde, bien française, marquée aussi par la crise économique et la désindustrialisation, le chômage. Et mon expérience de cette époque, au cours de laquelle j'ai animé un fanzine et un label, constitue un fil rouge, mais ce n'est pas de ça tellement que je vais parler, c'est plutôt de tout ce qui ne concernait pas, finalement, ce qui laisse des traces, hein, ce fanzine et les liens qu'il a pu créer. Et au lieu de faire une histoire en fait, qui montrerait de manière finalement, un peu agiographique l'inscription de ce fanzine dans cette période, c'est plutôt raconter tout ce qu'il y a autour, tout le vécu punk qui a porté ça et qui, d'une certaine manière, participe de toute cette histoire qui a disparu un petit peu, qui est illisible quand on voit les groupes, quand on lit. La plupart des travaux sont consacrés à des groupes assez connus, etc. Et pour moi, la réalité sociale de ce punk-là, ce punk vécu au quotidien par des punks lambda, et la scène musicale sont complètement liés et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Je vais aller un peu plus vite. Voilà, on est tous convaincus, hein, ça serait complètement... c'est une évidence que, d'une certaine manière, tout ça est parti d'un cri de colère, d'un cri social, politique, un cri parti de la jeunesse, pas de mauvais jeu de mots, la matière qui fait le punk, sa musique, ses textes, viennent directement de cette expérience. Hein, on ne peut pas la reconstituer aujourd'hui uniquement comme une histoire musicale, comme une branche du rock. Et je pense au dernier livre, c'est marrant de dire ça, le dernier livre de John Lydon, qui s'appelle « La rage et mon énergie ». Et je me suis reconnu dans ce qu'il disait, notamment parce que je sentais qu'à l'époque, la rage ne me quittait jamais. Et c'était le punk était une place, un endroit où on pouvait exprimer cette rage, où elle était bienvenue et où on la voulait à l'état brut, cette rage. Et en plus, et c'est important, le punk permettait à chacun d'exprimer de manière très créative cette rage-là ou cette colère, que ce soit par les fringues ou les cheveux, mais aussi par le do-it-yourself, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Mais je me souviens de cette injonction ou cette proposition, faites votre truc, venu de gens comme certains sont ici, qui disaient, faites votre truc, faites votre fanzine, faites votre groupe, etc. Et du coup, c'est vrai que quand on évoque la scène punk, on a l'habitude de mettre au cœur des groupes, des lieux emblématiques assez célèbres. Mais cette histoire, à mon avis, peut se raconter autrement par l'évocation de trajectoires de quelques individus qui l'ont traversée. Et pour certains que j'ai eu l'occasion de fréquenter, donc des gens dont les noms, certains ont été, changés ou pas, l'anonymat, je ne sais pas trop ce que ça signifie dans un travail universitaire, parce que n'importe qui connaît peut retrouver en deux secondes les gens. Mais des noms qui diront peut-être quelque chose à certains, Ajax, Francis, Fred, Marker, Christophe. Aucun de ces punks-là n'appartenait à un milieu intellectuel parisien, ni ne fréquentait des milieux artistiques. Leur enfance, leur quotidien, leur famille, leur horizon, tout les liait à la banlieue, même s'ils occupaient des positions sociales assez variées quand même. Alors le punk est généralement considéré comme à la marge, ça va de soi, mais je pense qu'il faut aller à la marge de la marge en fait. Hein, c'est-à-dire dans l'expérience banale et anonyme, comme les historiens, les anthropologues qui racontent le monde par le bas, par le quotidien, par des individus lambda, et qui produisent une autre manière de raconter le monde qu'ils qualifient de populaire en fait. Je reviens à ces punks de banlieue que je fréquentais. Nous traînions ensemble, mais nos lieux de vie nous séparaient. Paris et la banlieue ne sont pas séparés que physiquement par la distance et par le périphérique, qui n'a fait que prendre la place de la zone pour encore mieux séparer la capitale des banlieues, généralement plus pauvres, et accentuant ainsi un déséquilibre économique, social et culturel. Une autre forme de distance existait aussi. Elle était alors assez peu visible, elle était écrasée, gommée par le punk, c'est des différences d'origine sociale. Je n'ai pas croisé ces individus tout seul. J'étais plus souvent accompagné de 2-3 amis qui habitaient comme moi dans le 15e arrondissement. Renaud, Anne, David, une petite bande avec qui je vivais littéralement au collège, mais le plus souvent en dehors, traînant de jour comme de nuit dans le quartier, sur les rails de la Petite Ceinture ou dans les catacombes. Donc cette histoire est marquée quand même par des différences de classe et de trajectoire, même si nous partagions beaucoup. Cette période intense aussi, je dois dire, s'est arrêtée aussi brusquement qu'elle avait commencé, remplacée par une autre forme d'engagement, avec le soutien à la lutte pour les Kanaks, à peu près au moment où certains groupes qui comptaient beaucoup pour moi et pour ma formation se sont séparés, sentant que quelque chose leur échappait et se diluait avec le succès grandissant de cette scène. Cette histoire a été suspendue plus qu'arrêtée, et je dois dire que j'en reprends, mais il faudrait que je me dépêche un peu, sinon je ne vais pas encore rentrer dedans, que ça sera fini. J'en reprends le fil aujourd'hui à l'endroit même où elle a commencé, puisque j'ai grandi une partie de mon enfance à Issy-les-Moulineaux, à Corentin-Celleton, et que j'allais, avant que ce soit Fahrenheit, à la MJC, d'où on nous foutait dehors à 7h du soir quand les parents n'étaient pas encore arrivés pour nous chercher. Et donc c'est là que j'ai commencé à traîner, bien avant l'âge où les punks traînent. Et voilà, parler du punk, je savais, ça m'obligerait à parler de moi. C'est pour ça que j'ai encore jamais parlé dans le projet Pind, et parler d'une période finalement personnelle, et d'une certaine manière faire ce grand écart entre un travail de chercheur qui est basé non pas sur une enquête, mais sur la résurgence de souvenirs personnels. J'ai quitté le quartier ici en 1980. Hein, à l'époque, ce n'était pas une ville gentrifiée, c'était une ville bien popue. On habitait un foyer de jeunes fonctionnaires au bout de la rue. Il y avait des petites baraques un peu ghetto partout. Mon école qui a été rasée pour construire derrière l'hôpital à côté. Et j'y suis retourné des années plus tard, mais seulement finalement 4-5 ans plus tard, mais ce qui paraissait beaucoup plus long, pour aller à des concerts à Fahrenheit, et notamment, je me souviens, de concerts d'OTH et des Tugs ici, il y en avoir pas mal d'autres. Et cette banlieue n'était pas encore gentrifiée, ça c'est sûr. Ces allers-retours, on pourrait dire, entre le 15e arrondissement et la banlieue, où nous allions presque tous les week-ends, donc dans toutes ces autres villes que j'ai citées, Maurepas, Pontoise, etc., grâce au hasard de la programmation. On allait tous les week-ends pogoter, boire de la Valstar aussi, rouge ou verte, dans des salles ou des festivals en plein air. Forme aujourd'hui l'essentiel de ce que j'ai envie de raconter, plutôt que le fanzine, finalement, qui m'apparaît une manière finalement d'auto-glorifier une activité qui n'était que la partie visible finalement de l'iceberg que représentait cette période. Et donc c'était des expériences à chaque fois, même on pourrait dire des épopées, d'aller en banlieue quand on avait 14-15 ans, en RER, trouver les endroits sans GPS, sans téléphone, sans fléchage nulle part, etc. L'épopée, c'était pas que le concert lui-même qui commençait toujours très en retard, qui était souvent animé par des chasses aux skins ou au contraire par des courses dératées pour leur échapper, mais c'était aussi y aller, trouver, parfois ne pas trouver finalement l'endroit où était le concert, et puis surtout rentrer du concert qui se finissait toujours après que le dernier train soit parti, et des longues marches en direction de Paris jusqu'au petit matin parfois. Et pour nous, en fait, c'était surtout ça, être punk, c'était surtout ces moments-là, c'était surtout cette attitude tout le temps provocatrice, souvent, presque toujours finalement liée à des activités qualifiées de déviantes par les autres, sans que ce soit toujours un choix finalement, mais il y a une espèce de posture comme ça. C'était surtout ça, et c'était pas finalement cette activité pourtant qui m'occupait beaucoup du fanzine, et je crois que l'un n'aura jamais pu exister sans l'autre. Un passage là sur lequel je vais aller un peu vite, mais j'avais créé ce fanzine avec Romec, qui était un type dans mon collège, hein, qui était un véritable génie absolument nihiliste, qui s'en foutait de tout, qui caricaturait tout le monde, qui s'en foutait même des punks finalement, et qui s'en foutait un peu trop du fanzine, et que j'ai rapidement viré du fanzine pour pouvoir le faire en fait, hein, pour pouvoir avancer. Et avec le recul, je me dis que finalement il était trop punk pour moi, Romec, et qu'il y avait un côté déjà chez moi, il faut faire le fanzine, il faut être sérieux, il faut de la rigueur, etc. Et ça introduit peut-être là aussi une autre forme de distance ou de différenciation entre ceux qui faisaient des choses et qui les maintenaient, que ce soit des groupes, des fanzines, etc. Et puis ceux qui avaient un côté beaucoup plus, peut-être, je ne vais pas dire nos futurs, parce que c'est un slogan auquel je trouve un petit peu superfétatoire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, mais qui en fait étaient beaucoup plus nihilistes et beaucoup plus dans l'instant présent. Et cette attitude punk les amenait finalement à avoir une autodérision beaucoup plus grande et un détachement par rapport à la rigueur ou la continuité qu'il fallait pour faire un label ou un fanzine ou même un groupe en fait. Alors cette activité m'a fait rencontrer des dizaines de personnes entre Paris et la banlieue, des dizaines de personnes dans la scène alternative, mais encore une fois là c'est en partant de ces personnes lambda et beaucoup moins connues que j'ai envie de raconter, puisque je crois que l'autre histoire, enfin la grande histoire on va dire de cette période, elle a déjà été pas mal racontée, elle est loin d'être épuisée, hein, mais je pense par exemple au livre de j'ai marqué Arnaud Futur, mais c'est pas lui, c'est de Nyark Nyark de... Merci. Arnaud Rudeboy, merci. Voilà. Que j'ai trouvé étonnamment, que j'ai abordé d'un œil au début un peu suspicieux, et j'ai trouvé étonnamment fidèle à l'esprit de cette époque, et pour les détails que je connaissais, assez fidèle aussi. Et... comment ? Non, on en parlera après. Donc revenons à voilà, cette adolescence, 14 ans, 15 ans. Pour moi, ces groupes, ces mouvements étaient déjà un peu mythiques. Ils l'étaient en tout cas au début quand on les a croisés. Et du coup, c'est peut-être un petit peu ça qu'on perd aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on oublie à quel point, peut-être, pour les jeunes punks à l'époque, cette rencontre pouvait représenter une échappatoire absolument formidable. Parce que le quotidien du jeune punk de 15 ans, il est généralement bien loin de la scène alternative. Hein, tout en occupant une place importante, la musique est une échappatoire et une alternative morale, philosophique, mais le quotidien, c'est l'expérience vécue du petit punk des années 80 dans le 15e, c'est le collège où on s'emmerde, c'est la famille chez qui on habite, et c'est aussi dans le 15e la terreur des skins de Boussicaut, qui sont rassemblés autour de Sniff sur sa chaise roulante et qui nous chopent dans des coins de rue, nous courent après et nous disent « bon, ça va, t'as 15 ans, mais dans 2-3 ans, on va te mettre une raclée, etc. » Voilà ce quotidien du jeune punk qui est un peu loin de la grande histoire du punk, un peu plus glamour des groupes, des concerts, etc. Et qu'il ne faudrait pas perdre de vue, mais surtout pas perdre de vue, donc je disais, le lien entre les deux. Ceux avec qui j'ai grandi dans le 15e, sans forcément appartenir à des milieux ultra privilégiés, ni faire des carrières absolument fulgurantes, sont aujourd'hui artistes, intermittents, profs, parce qu'ils avaient déjà, soit par leur famille, soit par le lieu où ils habitaient, pu acquérir en fait, des ressources nécessaires pour intégrer ces milieux, hein, qui nous ont été transmises très indirectement, mais transmises quand même par l'école, par le milieu, par la fréquentation de gens qui étaient, on pourrait dire, des fils d'eux en caricaturant un petit peu, etc. Mais les potes punk qu'on avait, les potes de banlieue, étaient loin de tout ça. Il y avait Francis, qui était plus âgé que nous, qui avait 20 ans quand on en avait 15, et qui était un punk des Halles. Il était commis en cuisine dans un grand restaurant des Champs, au Fouquet's, et il était pour nous un vrai quepon. Il avait traîné dans la rue, il avait traîné aux Halles, et il portait en lui une forme de nihilisme qu'on n'assumait pas vraiment, nous. Quand il venait nous voir dans le 15e, lui qui n'avait pas de domicile fixe, il restait chez l'un ou l'autre. Et on habitait tous seuls avec nos mères, donc il se faisait un petit peu adopter par nos mères. Et il nous préparait à bouffer, il faisait super bien à manger. Et il avait une grande gentillesse, mais aussi il veillait un peu sur nous en fait. Il avait fait lui-même pas mal de conneries. Et il y avait une forme de bienveillance qui permettait à nos mères finalement d'être rassurées par la présence de ce gars. Et puis au bout d'un moment, après avoir passé 3 semaines chez l'un, 3 semaines chez l'autre, il sentait qu'il fallait qu'il s'éclipse un petit peu, qu'il était un petit peu trop présent. Et il disparaissait. Et on le revoyait quelques mois plus tard. Nous, on savait chez qui il allait. On ne savait pas qui c'était, mais on savait qu'il allait retrouver un vieux copain en banlieue et que chez lui, il retournait se camer, en fait, alors qu'il ne se camait pas quand il était avec nous. Donc ces jours chez nous étaient des parenthèses aussi pour lui, une vie finalement beaucoup plus tranquille, tout en étant avec des jeunes punks, finalement un petit peu bichons quand même, il faut le reconnaître. Et il y avait déjà ce hiatus très, très profond, hein, et quand il venait avec nous, on traînait, il nous parlait de ces nounours, caniches, toute cette bande des punks des Halles, mais on restait finalement dans un cadre beaucoup moins destructeur que celui dans lequel il vivait, lui, par ailleurs. Il y avait Ajax aussi, que j'ai pas revu non plus, Ajax qui vivait dans l'Essonne, tout près de chez mes cousins, toujours fourré avec Marker, un autre punk qui avait une crête assez spectaculaire, assez curieuse, avec des cheveux blonds frisés. Marker était un dessinateur génial, je sais pas ce qu'il est devenu. Ajax, il venait nous voir dans le 15e et il s'amusait à nous provoquer en nous traitant de petits bourgeois. Moi, j'étais fils d'une secrétaire, comme un autre de mes amis punks, mais c'était pas le cas de tous, et c'est vrai que certains appartenaient à des milieux qu'on pouvait qualifier de bourgeois. Les origines familiales ne disent pas tout, et d'ailleurs, on s'est beaucoup construit contre ça. Hein, et le punk s'est beaucoup construit contre ça en disant on va passer au-delà de ces différences et les gommer. Et je crois qu'elles ne s'imposent pas toujours, les origines familiales, de manière mécanique, comme dans la sociologie de Bourdieu, hein, qui dit que tout est l'héritage et la reproduction sociale. Mais je crois qu'il est temps, à un moment aussi, de réintroduire un petit peu ces notions et de ne pas avoir une vision complètement horizontale en pensant que finalement, parce qu'on rentre dans le mouvement punk, il n'y a absolument plus aucune différence. Parce que ces différences, elles réapparaissent plus tard, au moment de la sélection par l'école, hein, ou dans l'insertion professionnelle. Ce n'est pas toujours qu'on a des parents très huppés, mais ceux qui réussissent le mieux scolairement, c'est les parents profs, par exemple, les enfants de profs. Hein. Voilà, la transmission d'un héritage qui peut être un héritage économique, mais qui peut être un héritage social. Hein. Il y a des gens qui, simplement par les amitiés des parents aussi, trouvent facilement des stages, des plans, etc. Ce qui n'était pas le cas du tout pour ces punks de banlieue. Ajax, lui, voyait de manière très claire que la plupart des gars et des filles de notre bande appartenaient à des milieux donc privilégiés. Et pour eux, la plupart, c'était une passade rigolote et finalement qui allait bien avec l'adolescence. Et il avait raison, Ajax, en disant ça. Mais ça me gênait et j'aimais pas trop mettre ça en avant. Parce que moi, je me faisais adopter par ce milieu et d'une certaine manière, je jouais peut-être aussi à travers ce grand écart entre le punk et ce milieu, finalement, ce que je suis devenu aujourd'hui, hein, sans avoir aucune idée de ce qui allait m'arriver, finalement, l'école et la fréquentation de ces gens a fait aussi que peut-être je ne suis pas devenu un punk de banlieue comme ceux que j'ai connus et qui ont disparu pour beaucoup de la circulation, mais pas tous. Je vais parler de Christophe, par exemple, de 13e section, qui n'a pas tout à fait disparu de la circulation, on sait où il est, on a son adresse, qui est devenu à un moment un cousin par alliance, hein, voilà, par son frère qui avait épousé ma cousine, et donc il y avait cet ancrage essonien. Voilà, qui m'amenait à aller à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Juvisy, etc. dans des endroits absolument merveilleux. Et on était très loin de la scène parisienne, très loin des groupes de la capitale. J'attendais, j'espérais bien que Marsu serait pas content que je dis ça, mais voilà. Mais en tout cas, avec le recul, ouais, je me dis quand même, il y a un peu de différence quand même. Il pouvait y avoir des rapports entre eux, des amitiés entre eux, ça c'est sûr, mais un milieu beaucoup moins artistique, peut-être moins sérieux, en tout cas beaucoup plus nihiliste et destroy, et surtout une musique et un style très marqué par la banlieue où ils vivaient, et où se dégageait parfois une certaine méfiance ou une certaine ironie vis-à-vis des élites, y compris, on pourrait dire, des élites du punk, hein, tout en avec des grosses guillemets. En tout cas, un esprit de dérision vis-à-vis des groupes parisiens qui se prenaient parfois trop au sérieux. Et moi, je veux dire que je me prenais beaucoup au sérieux à l'époque. Il y avait Fred aussi, des Cafards, hein, qui était aussi un autre grand frère punk plus âgé, qui m'a beaucoup aidé pour mon fanzine, et alors que moi, je donnais toutes mes économies aux Cafards pour coproduire, faire le pressage du disque Vive les Vacances. Alors son regard un peu ironique sur les punks parisiens qui se prenaient au sérieux, la réputation qu'il traînait depuis le jour où une bande de skins est venue dans un concert et a cassé la gueule à tout le monde, sauf à eux, parce qu'ils les connaissaient de leur quartier d'Épinay, ce qui leur a valu une réputation qui, pas tout à fait méritée. Voilà. Et ignorait, enfin, ce regard-là ignorait complètement l'expérience vécue par cette petite jeunesse blanche de banlieue. Et j'insiste là-dessus parce qu'on n'a jamais parlé de ça comme ça, je crois. Enfin, on le sait pour beaucoup de gens, mais dire à quel point il s'agissait d'une fraction particulière de la population, voilà, ce qu'on appellerait ailleurs peut-être petit blanc, etc., dans cette période de crise, et qui pour certains groupes parisiens la chantaient mais ne la connaissaient pas. Certains seulement, parce que beaucoup l'avaient peut-être côtoyée, mais par exemple, ça m'amuse toujours effectivement que je vois des gens qui disent « mais moi aussi j'ai grandi en banlieue, j'étais à Sèvres, etc. » C'est pas loin d'ici Sèvres, hein, mais c'était pas pour beaucoup tout à fait la même population. Ce détour par le quotidien, l'expérience du quotidien, et là en s'inspirant un peu d'un historien qui s'appelle Michel de Certeau, qui essaie de relire l'histoire à travers ce que font des individus singuliers, hein, par exemple comment ils détournent les objets, comment ils détournent tout un tas de choses, etc. Et plutôt que de prendre la grande histoire et les personnes les plus connues tout le temps, ce détour par le quotidien, qui cherche à décrire ce que c'est de voir le monde quand on se dit punk, peut éclairer différemment cette époque et la scène musicale en expliquant mieux donc l'articulation entre le punk et le punk, je précise, entre le punk individu, hein, et le punk mouvement. Parce que s'intéresser au punk, au mouvement, au groupe, etc., comme Fahrenheit, qui a débuté, je crois, en 84, ça restitue l'image d'une scène intense, vivante, hyper productive et multiforme, tout à fait en phase avec ceux qui l'ont connue. Mais en revanche, quand on pense au punk individu, on pense à un type isolé, seul représentant de son espèce ou dans son immeuble, dans sa rue, dans son quartier. Hein. Je pense par motion le punk à Crète du 15e qui était dans notre lycée et qui ne nous parlait pas d'ailleurs tellement il était seul sur sa planète, que j'ai revu complètement par hasard après parce qu'il est devenu comme moi un spécialiste du Pacifique. Il devait être dans une grande solitude, je trouvais, parce qu'il n'arrivait même pas à le partager avec nous. Et pourtant cette immense diversité, certains me diront même j'étais le seul punk de ma ville, voire le seul punk de mon pays pour certains, cette immense diversité parcourt finalement une scène punk qui forme néanmoins un tout bien identifié, mais qui est traversé par des, je dirais pas des oppositions, mais des clivages ou des différences de classe qu'il ne faut pas minimiser en fait. Moi qui ai vécu ici à Issy avant de vivre dans le 15e, je mesurais sans trop le reconnaître donc ce gouffre social qui séparait les uns et les autres entre mon copain Tar qui habitait l'allée où j'habitais et les loubards de Corentin Selton, hein, ces bandes de Hells que je connaissais du café parce que je jouais au flipper au café, et qui, c'est la période de ma vie où j'étais le mieux défendu parce qu'ils venaient me chercher à l'école pour pas que je me fasse emmerder, c'était un peu disproportionné. Cette banlieue-là, elle a disparu, ce ici-là a disparu, mais quand je suis passé dans le 15e arrondissement avec ces commerçants, cette petite bourgeoisie bien catholique, etc., du 15e, et RPR à l'époque, il y avait un fossé immense, hein, il n'y avait que 3 km qui nous séparaient, mais une distance sociale beaucoup plus grande. Comme j'étais donc du coup adopté dans ce quartier par ces jeunes et que j'ai trouvé une place de choix grâce à la réputation que me procurait le fait d'être punk et d'avoir un fanzine, je me volais la face quant à ces différences de classe qui existaient entre nous. Les mettre sur le devant m'aurait éloigné des copains du quartier, punk ou non, et du chemin sur lequel j'étais engagé, rebelle certes, mais dans le système, s'accrochant à l'école pour finalement être capable d'en faire quelque chose plus tard avec des études d'ethnologie. Chercher plutôt à relier coûte que coûte, tel un chaînon manquant, la banlieue et Paris, à établir un pont par-dessus la zone en réduisant la distance physique et sociale. Quand on se déplace de la banlieue vers un quartier bourgeois de Paris, on cherche à retrouver donc les repères, les gens qui zonent, ceux qui dealent, la petite ceinture désaffectée, les catacombes. Les différences sociales entre nous n'apparaissaient guère gêner nos amitiés fondées sur l'idée de liberté, d'échapper aux parents, à l'école, et vite attirées par les activités déviantes. De nombreux punks, dans des lieux, des époques différentes, ont vécu des expériences proches. Mais on peut dire que beaucoup de choses les ont séparées par la suite. Beaucoup de ceux qui sont restés dans la musique ou qui viennent au colloque PIND ont déjà réfléchi à ces différences sociales et territoriales dont je parle, et mieux que moi. Elles étaient déjà présentes et visibles à l'époque dans le paysage des groupes de la scène alternative. Opposition de style musical, d'engagement, des manières contrastées aussi de voir le punk, soit comme un outil de lutte, soit comme une provocation, avec sérieux, avec dérision. Les oppositions politiques, les accusations de faf ou les accusations d'ambiguïté m'apparaissent aujourd'hui refléter en partie ces différences de classe. Il m'a fallu longtemps pour comprendre par exemple les groupes qui jouaient à la fois pour les punks et les skins, il m'a fallu très longtemps même, considérant qu'ils faisaient finalement tous partie d'un même monde, issus de la même zone et finalement frères de la rue, comme le chante un groupe que vous connaissez, mais aussi comme l'écrit aujourd'hui un sociologue qui s'appelle Jérôme Bochez, je ne parle pas de l'autre qui est connu, mais Jérôme Bochez est moins connu et qui écrit un très bel article qui s'appelle « La rue comme héroïne », en jouant sur le double sens d'héroïne, punk et skinhead dans les années 80, et qui montre à quel point, malgré toutes les différences et les oppositions qu'on peut, et parfois légitimement, mettre en avant, il y a un destin commun, en fait, hein, je prends cette expression de destin commun de la Nouvelle-Calédonie, entre ces communautés de gens. Cette période intense, donc, s'est arrêtée aussi brusquement qu'elle avait commencé, je l'ai dit, remplacée par un autre engagement. J'ai essayé de fuir un peu la géographie, la glorification de cette période et de mon expérience, même si je pense qu'on n'y arrive jamais tout à fait. La nostalgie, elle existe, mais elle est toujours accompagnée d'une volonté de comprendre et de relire avec honnêteté et une certaine distance cette période. Et c'est pour ça que les sciences sociales, même si elles ont parfois un côté pas très glamour et qu'un côté parfois un peu dénonciateur, parfois un côté chiant et difficile à faire passer, c'est les sciences sociales, pour moi l'anthropologie, mais aussi les disciplines connexes comme la socio et l'histoire, elles aident, malgré tout, à adopter une vision objective et surtout à désidéaliser une jeunesse punk pour mieux comprendre une époque. Je m'arrêterai là, je veux juste, pour finir, remercier, mais aussi, d'une certaine manière, dire que je me reconnais tout à fait dans l'engagement qui a été celui de Solveig et Luc depuis le début, de dialoguer, restituer, partager ce qu'on fait, les recherches qu'on peut faire, avec des gens qui ne sont pas chercheurs. C'est quelque chose qui ne va pas de soi pour les chercheurs et qui ne va pas de soi tout court parce que ce n'est pas évident à faire. On prend des risques en faisant ça parce que justement, on prend le risque d'être pas compris ou de paraître un peu pédant ou intello, etc. Mais je crois que c'est le but de la science, c'est de pouvoir faire avancer des choses et en tout cas, du coup, de le partager. Et je crois que surtout pour avancer, elle a besoin, là en l'occurrence, de gens qui connaissent souvent mieux le sujet qu'on étudie que nous-mêmes. Et d'une certaine manière, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis peut-être aussi longtemps à intervenir dans ces colloques, parce que ça double c'est à la fois à remémorer des choses très personnelles et difficiles à évoquer en public, mais surtout parce que justement, ça m'expose vis-à-vis d'un monde auquel je suis attaché par une toute autre histoire et vis-à-vis duquel il m'est encore un peu difficile d'être présenté comme le directeur de l'Iris, même si c'est la vérité. Merci. Je veux juste dire qu'il y avait un petit passage plus loin que je n'ai pas cité pour éviter des bruits et des conflits, mais on pourrait, cette analyse en termes de différences sociales, par exemple, introduire un certain nombre de rivalités entre les groupes. J'ai des noms ici, mais je pense que vous pensez. Et façon de voir les choses, façon de s'engager, avec qui jouer ou pas jouer, etc. Et que ça pourrait être un petit jeu assez amusant, enfin en tout cas une perspective intéressante pour voir si on peut vérifier finalement en quoi... les backgrounds des gens, hein, avant cette histoire qui semble effacer toute histoire précédente, peuvent aider à comprendre pourquoi tel groupe joue comme ça, tel groupe s'engage et tel groupe s'engage pas. Voilà, mais je laisse.
Merci Eric.